Le manche disque. L'émission qui tourne. À 33 tours minutes.
Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. C'est Julien et Nico pour le manche disque. Une nouvelle fois, un lundi, tous les 15 jours. On n'a pas manqué ce rendez-vous. Un rendez-vous autour du plaisir d'écoute des disques vinyles comme autrefois. Mais comme tellement aujourd'hui aussi, on l'a déjà un petit peu évoqué il y a 15 jours. Il y a un gros buzz du vinyle. Ben, on est peut-être un peu dans cette veine-là. Julien est avec moi. Il est en train de caler. Il est en train de caler son disque. Donc ça y est, il me fait signe en régie.
C'est bon.
Que c'est bon. On va pouvoir lancer ce disque qu'il m'a introduit sans plus de détails, comme une bizarrerie. Eh bien, on va s'en rendre compte ensemble. Et puis on se retrouve bien sûr tout de suite après et on va en parler un petit peu plus longuement. c'est fini.
C'est fini. Alors, eh bien, je vais vous en parler un petit peu parce que c'est, c'est quand même un peu bizarroïde.
Obligé.
Effectivement. C'est un morceau qui s'appelle Apprends le silence, qui est signé de Étienne Jaumé. Étienne Jaumé, c'est la moitié de Zombie Zombie. Donc, c'est Zombie, quoi.
Ah oui.
Voilà.
Très bien, très bien. Et... Zombie Zombie. Lévitation.
Effectivement. Et c'est un morceau qui fait partie d'une compilation qui s'appelle Desert Sounds, An Imaginary Journey into Dunes Universe. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est édité par Rocky Rama, qui jusqu'ici faisait surtout des gros MOOC, des gros magazines sur la culture populaire des années 80, j'ai envie de dire, avec des dossiers spéciaux. Alors, je vais dire des bêtises, je vais citer, parce que j'en ai pas, moi, des magazines de Rocky Rama, mais j'ai vu les pubs, des dossiers sur Predator ou Terminator ou toute cette culture US assez 80s. Et là, ils avaient sorti, il y a de ça un bon moment, ils avaient fait une levée de fonds pour un magazine... qui est invité au voyage vraiment avec un format très particulier, plein de splendides illustrations, et qui pouvait, pour ceux qui étaient les plus passionnés, enfin sur Dune, donc voilà, j'y viens, sur Dune, du fait de la sortie du film, etc. Et pour les plus passionnés d'entre nous, il y avait également ce vinyle, donc qui est très beau en plus, hein, qui est couleur épice, sable, etc. Mmh. Et qui est une compilation donc, dans laquelle on retrouve quand même pas mal de... On retrouve du beau monde, on retrouve Gaspard Auger, on retrouve Bernard Sazner, dont on avait déjà passé un morceau.
Oui, Bernard Sazner, le harpiste,
exactement.
Je sais pas, électrique ou je sais pas comment on
Gaspard dire. Auger, c'est la moitié de Justice, si je dis pas de bêtises. Il y a également Rob, qui a fait pas mal de BO, Étienne Jaumé, donc, et puis après, il y a aussi Zero Crossing Point, et puis Mondkoff. Donc, voilà. Alors, c'est un vinyle qui avait pris énormément de retard. Merci Adèle, encore une fois.
Encore une fois.
Je crois qu'on a peut-être eu un an de retard ou quelque chose comme ça. Pour le coup, moi, je l'ai reçu aujourd'hui, je l'ai dégusté au moins déjà deux, trois fois. Ça valait le coup d'attendre. J'ai eu un petit peu peur au début parce que je croyais qu'il y avait. Je l'ai acheté sur un coup de tête, je croyais qu'il y avait des lectures en même temps de Dune et du passage du livre. Je me disais, mais où va être la musique ? J'avais peur que ce soit très peu de musique. En fait, c'est des excellents morceaux.
Et c'est que de la musique.
C'est que de la musique. Okay. Et puis, effectivement, on a une quinzaine de minutes sur la face A, quasiment 13 ou 14 sur la face B. Donc, ça va, c'est assez généreux. Et puis, voilà, c'est une initiative à soutenir, je pense. Alors, je ne sais pas s'il peut s'acheter encore tout seul. Belle illustration, hein, on voit un verre des sables gigantesque sur Arrakis, et puis une machine à récolter l'épice qui a un nom et je m'en rappelle plus, et les fans de Frank Herbert me crucifieront.
Ah, je sais pas, moi je suis allé voir le remake là, la première partie du remake là, il y a pas longtemps.
Très beau, hein, d'ailleurs. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé.
Très beau, très beau en tout cas. Après, c'est sûr que on est parti sur un truc très long, donc.
Ah bah oui, oui.
Donc, c'est sûr que c'est une autre temporalité que les premiers.
Alors là, ce sont pas des musiques liées au film.
Ah, oui, ça a inspiré, c'est inspiré, voilà, bien sûr.
Mais voilà, ça vaut vraiment.
On a bien compris. Ouais. Mais c'est à l'image de ce morceau, ça a l'air d'être bien, bien intéressant. On va retomber dans du bon vieux classique là, classique soul funk, un peu psychédélique, hein, puisque nous allons partir en 1973 avec un disque que j'ai choisi. Alors non seulement parce que j'aime bien ce disque là, mais je l'ai choisi aussi parce que c'est un disque qui est quand même relativement, on va dire, courant dans les vide-greniers, et que il faut pas laisser passer quand on le voit, parce que il est pas du tout difficile à se procurer. Il a été apparemment pas mal acheté à l'époque, et moi en tout cas je l'ai vu voilà 4 ou 5 fois, pas forcément à la première heure. Alors peut-être que maintenant effectivement le marché s'est un petit peu tendu, peut-être que les vinyles qui ont un nom un tout petit peu connu partent un peu plus vite qu'à une époque,
mais je pense
quand même que c'est facile de le trouver sur un coup de chance. Effectivement, je veux parler en fait de l'album des Temptations. Alors les Temptations, pour ceux qui ne connaîtraient pas les Temptations, c'est un des chevaux de course de la grosse écurie Motown, hein, de l'époque, hein. C'est un groupe de chanteurs un petit peu dans le style, hein, des chanteurs soul des années 60, avec beaucoup d'harmonie, avec toutes les voix représentées, la ténor, baryton et compagnie, mais bien sûr avec la touch Motown, donc avec bien évidemment le petit côté funky qui s'est introduit assez rapidement dans leur son et qui a fait leurs belles heures. Et bon, ils ont une carrière extrêmement longue, les Temptations. Je crois même certains d'entre eux sont encore en activité. Je crois que le groupe a eu aussi de certaines personnes qui sont parties, d'autres qui sont revenues, donc ça s'est renouvelé, mais toujours sous le nom des Temptations. C'est un groupe qui a une énorme carrière, et franchement, on va dire que tout n'est pas bon, hein, dans ce qu'ils ont fait. Hein,
Ont-ils sombré dans le disco comme certains?
Alors ils ont sombré, oui. Alors ils ont fait aussi des bonnes choses, mais effectivement, à un moment donné, ils sont un petit peu perdus dans le souci d'être toujours dans la tendance et de toujours vendre des disques. Hein, donc je pense que voilà, il y a à boire et à manger vraiment dans leur carrière. Mais s'il y a vraiment une période indispensable à tous les amoureux de la Motown et des Temptations. Eh bien, c'est la période Norman Whitfield, donc qui les a produits, qui a produit un certain nombre de leurs albums. Alors, de mémoire comme ça. Et si je vais certainement en oublier ou en dire qu'ils sont pas de cette période-là, mais tant pis, je me lance quand même. Il y a Psychedelic Shack, c'est sûr. Solid Rock, donc Masterpiece qui est là. Certainement 1990, donc 1990. Et puis peut-être certainement Cloud Nine aussi. Qui doit être tout ça, ça doit être produit par Norman Whitfield. Si j'en oublie, bah tant pis, mes collègues de Foncadelica me flasheront de moi mardi, pas demain, mais mardi prochain. Mais en fait, voilà.
Masterpiece, c'est quand même assez osé d'appeler son album Masterpiece, c'est un peu chef-d'œuvre, quoi.
Hein, complètement.
Pour ceux qui connaissent un peu pas trop l'anglais.
Il devait être vraiment, vraiment très, très fier de cet album. et il y a de quoi, il y a de quoi. Alors. Pourquoi, vous me direz ? Eh bien, parce que dedans, il y a un morceau qui s'appelle Masterpiece, justement.
D'accord.
Qui est très long, qu'on va s'écouter tout de suite, qui fait près de 14 minutes.
Ouais, mais c'est pour ça que c'est le manche-disque. Hein,
le manche-disque, on est sur des formats non radiophoniques, mais à la radio quand même. Et on va se l'écouter, et vous allez voir que là, on est sur quelque chose instrumental. Alors, je vous ai dit que c'était un groupe de chanteurs, etc. Mmh. Mais en fait, pas que. Donc, c'est un morceau qui est très instrumental. Je crois même qu'il est que instrumental. Mais qui est extraordinaire et qui déplie vraiment le potentiel Norman Whitfield, qui se caractérise par l'introduction. Alors, on est en 1973, j'ai déjà dit. Par l'introduction, donc, dans la musique funky. De psychédélisme qui fait vraiment 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 une touche particulière et unique de ses productions. Donc voilà, quand vous voyez de toute façon sur un disque produit par Norman Whitfield, même si c'est pas les Temptations, vous le prenez sans réfléchir. Allez, on s'écoute ça et puis on part pour un petit voyage là de 14 minutes, mais vous allez voir, ça va passer crème.
I lived in a place they called the inner city. Getting ahead was strictly a no-no. Cause nobody cares what happens to the folks that live in the ghetto.
Thousands of lives wasting away. People living from day to day. It's a challenge just staying alive. Cause in the ghetto,
C'est le petit chef-d'œuvre des Temptations, Masterpiece, qu'on vient de s'écouter. Alors, il n'était pas tout à fait instrumental, hein. J'ai eu une petite hésitation. Après, à ma décharge, la voix n'est pas l'essentiel du morceau, me semble-t-il. Donc, c'est vrai que c'était plutôt les instrus qui m'étaient restés en tête. C'est ça de faire sa playlist comme ça, à la mémoire, pas d'écouter avant. On est toujours dans une préparation optimale des émissions. Non, mais voilà, on a eu le plaisir de voir le petit panel de voix sur quelque chose de un peu chanté, un peu spoken word, sur cette musique que je vous avais décrite, donc avec ces touches psychédéliques à la Norman Whitfield, avec de la pédale wah-wah, des choses empruntées à toute l'influence du rock psyché des années fin 60-70. Je rappelle qu'on est en 1973, quand cet album sort dans les bacs. Okay. Voilà.
On va rester probablement dans le même genre d'ambiance, puisque moi je vous parlais d'un album qui est sorti l'année suivante. Il est sorti, pour le coup, en Italie. C'est un album de Alessandro Alessandroni, qui est célèbre notamment pour certaines de ses musiques de films et également pour tous ses disques de library. L'année dernière, on avait une compile sur la musique orientée un peu industrielle, hein, qui était sortie. Il y en a deux volumes, je crois que c'était le volume 2. Et là, je ne sais plus si c'était un disquaire D ou pas. En tout cas, c'est toujours le label, l'excellent label italien Four Flies Records, qui ressort des bandes originales de films de Gialli, etc., qui nous propose cet album de 1974 de Library, Jazz, Funk, Soul, etc., qui s'appelle Spontaneous et qui est vraiment très inspiré par le New York de l'époque. D'ailleurs, la pochette, c'est la Statue de la Liberté, les buildings, etc. Et donc voilà, c'est des morceaux, bah, pour le coup là, purement instrumentaux, quoique pareil, il y en a un avec des voix, et on plonge dans l'ambiance de la grosse pomme des années 70. Ça a été très dur pour moi de vous choisir un morceau. J'hésitais entre un morceau un peu suspense et puis un morceau un peu genre l'amour et la promenade à Central Park, j'allais dire Center Park, mais c'est pas New York. Et je vous ai choisi le morceau un peu suspense, mais je dis pas que je ne passerai pas l'autre sous peu. Donc c'est Watergate, le morceau qui ouvre la face 2. rester un petit peu dans le ciné finalement. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, ce morceau de Hosan Yamamoto with Sharps and Flats de l'album intitulé Beautiful Bamboo Flute datant de 1971 et intitulé Nambu Ushioi Huta me fait énormément penser à une sorte de James Bond au Japon.
Ah, complètement, ouais, c'est très sympa, cinématographique, librairie avec cette petite flûte effectivement qui rappelle l'Asie.
Effectivement, par un maître de la flûte, hein, donc j'ai fait aucune recherche, je vous en parlerai à l'occasion d'un prochain passage au Mons Dix, mais c'est Hosan Yamamoto. C'est un disque qui avait été totalement introuvable et qui se vend 14 milliards de dollars en original et qui a été réédité récemment par Mr Bongo et dont
excellent label.
La réédition commence tranquillement à se faire rare. Alors pas rare, on l'a encore, hein, mais je pense qu'elle commence à trouver preneur là, donc si vous avez aimé et si vous comptez vous acheter le disque, don't sleep on this.
Ah oui, ben c'est clair qu'on comprend pourquoi, hein, on comprend pourquoi ça a été si vendu et si rare, parce que ça a l'air d'être un bon petit voyage dans plein d'influences différentes avec cette petite touche effectivement japonaise qui fait du bien. Alors moi je vais changer un peu de style, même complètement, mais avec peut-être le point commun, j'essaye de faire des ponts. Le point commun, c'est le côté disque qui commence un petit peu à s'envoler en termes de valeur, commence à être un petit peu dur à trouver, mais qui est encore abordable, mais à condition de commencer à mettre un petit budget. C'est un disque de hip-hop, une fois n'est pas coutume dans le manche disque. Hip-hop en plus me concernant encore moins, une fois n'est pas coutume, assez récent, hein, puisque c'est un album d'un artiste que j'ai découvert récemment et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mac Miller. Mac Miller, donc ce rappeur américain. J'étais bien content d'ailleurs de tomber sur un son, parce que c'est même pas un rappeur américain récent qui fait du son old school. Il y a vraiment des influences dans son flow et dans sa façon de faire du son qui rappellent, hein, le rap américain old school que j'affectionne tant. Mais vraiment le résultat est très atypique et très particulier, très moderne aussi, avec des sonorités extrêmement actuelles. Et du coup j'étais assez content de l'aimer. Je me suis dit, tiens, c'est bien, pour une fois je me sens pas trop vieillard, pas trop ringard, et je suis content d'aimer quelqu'un que je vais peut-être pouvoir aller voir en concert en vrai, etc. Bon, pas de bol, il était mort. Quand je m'en suis rendu compte, les 30 ans under 30 là qui m'écoutent, ils doivent se dire, hein, quoi, tu connaissais pas Mac Miller, mais t'es un tocard. C'est vrai, peut-être que je suis c'est pas assez poussiéreux pour moi. Je l'ai découvert après sa mort. Il est mort en 2018, le jeune homme, 26 ans.
Et c'était une histoire
de drogue.
De drogue et de balles et de règlement de
compte. Non, histoire de drogue, de consommation, d'overdose. Parce qu'il était un peu angoissé. Non, c'est pas trop un gangster, Mac Miller, pas du tout. Okay. Pas du tout même. Okay. C'est un mec assez bon esprit, assez cool, plutôt positif, avec des textes bien réfléchis qui parlent de la vie de tous les jours. C'est pas du tout une espèce de. Il est pas du tout dans le truc un peu pimp, machin, pas du tout. Et donc voilà, le pauvre, il est décédé parce qu'il était un peu stressé, un peu nerveux, apparemment un peu anxieux. Il prenait beaucoup de choses pour se soigner et il a pris trop de choses. Voilà. Donc il s'est pas réveillé.
C'est dommage.
Alors il y a un album posthume qui est sorti parce qu'il était parti pour faire. Alors moi je croyais que c'était deux albums dans le même thème, l'un qui s'appelle Swimming et puis l'autre qui s'appelle Circles. Les deux ensemble sont sortis aussi en coffret. Alors Swimming, il a sorti de son vivant. Circles, du coup, il a été produit, enregistré, mais il est mort au moment, un peu avant la sortie. Et peu avant la sortie d'ailleurs, il est mort en 2018 si je ne m'abuse, et l'album Circus est sorti en 2020, donc deux ans avant. Et du coup il y a un coffret aussi qui est sorti qui s'appelait Swimming in Circles, du coup,
forcément.
Et qui est hyper cher là, par contre, le coffret qui réunit les deux là, c'est avec des goodies, genre des posters, tout ça. Et donc voilà, donc Circles, il se fait un peu rare parce que du coup ça met un petit coup de boost à sa carrière, comme tous les gens qui meurent. Et il y a plein de gens comme moi qui en ont entendu parler grâce à sa mort, en fait. C'est un peu dommage, mais ça nous permet aussi de nous apercevoir de ce son, vous allez voir. Alors je vous ai sélectionné en plus un morceau qui s'appelle Woods, qui est un peu à l'image de ces deux albums, que vraiment dans sa discographie à mon avis sont un petit peu différents, dans le sens où il quitte vraiment la préoccupation première du rap pour faire du hip-hop, mais aussi de la musique qui est très instrumentale, très jouée aussi, ce qui n'est pas vraiment le cas de tout ce qui... Enfin, dans le hip-hop, on a la culture du sample, en fait. Mais alors que dans les prods de Mac Miller, on a quelque chose de très joué, en fait, de très... je le disais tout à l'heure, avec des synthétiseurs, avec la production beaucoup de MAO, mais pas que. Et on a des choses, ils s'autorisent aussi à chanter, ce que les rappeurs font rarement, en fait, hein, vraiment chanter avec cette voix rauque qu'il a, un peu Mac Miller qui fait sa signature vocale. Et puis bien sûr, de temps en temps dans le morceau, il y a des petits flows avec la précision qu'il lui connaît. C'était vraiment un petit génie, non seulement par rapport au rap, mais aussi par rapport à tout l'aspect expérimental aussi qu'il était en train d'apporter pour son si jeune âge. C'est vraiment, vraiment dommage qu'il soit parti, parce qu'il aurait pu, la maturité aidant, je pense, faire des choses très 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 belles quand on voit le niveau déjà de ce qu'il nous a laissé. Donc je vous mets un morceau qui s'appelle Woods, qui je pense illustre bien mon introduction, j'espère en tout cas.
Ain't built to last. I might just fade like those before me. When will you forget my past? Got questions asked, you know the stories. Yeah. And you need to let me know when you're leaving, where you go. Can I come? Close, yeah. Even if you don't, that'll get you sprung. Heartbreak will have you bankrupt. Too many days in a daze, better wake up. I put your face in the place where the space was. Nobody make you feel like you, but do I. And you don't know you should do. You just looking for someone to make you move. Oh, tell me, do I. I make this planet feel like home. It's us first time, the door's closing. So far beyond all our control, you saved us all so close to broken. It's so much better when you wait forever and a day. That's all I got. Put it together, then it breaks. All the energy it takes, it never stops. Try to tell you about a better life, you get involved. Big or small, it's been my fault. I keep it safe, it's in a vault. Blindfold to keep it going till we hit a wall. Yeah, I'm never going through the motions. I'm just trying to lay your body down slowly. We can only go up. We can only go up. Do I? Do I? Can I get enough?
Et voilà, rest in peace, Mac Miller.
Bonne ambiance, effectivement. Pas cinématographique, mais bien urbaine, bien nocturne.
Bien planant. C'est ça, et Swimming et Circle, ils se caractérisent par des ambiances comme ça, très, tu comprends, très aquatiques presque. Tu flottes, ça t'emmène les pensées assez facilement dans plein de directions différentes en fonction de ta life. Mais voilà, ouais, donc je voulais vous faire découvrir ça. Petit clin d'œil quand même à notre chère radio, d'ailleurs on ne dit pas assez souvent la fréquence, 101.5 FM, Radio J. C'est sur radio, c'est grâce à la programmation fantastique qu'on souligne souvent quand même. Et ouais. On est assez fiers quand même de cette programmation. On remercie ceux qui en sont à l'origine. C'est grâce à la programmation que j'ai découvert Mac Miller avec un autre morceau de l'autre album justement de Swimming qui s'appelle Perfecto, que je vous recommande aussi.
Alors là, moi, on va changer un peu, d'ambiance en fait. C'est une trouvaille de Vic Grenier dont je vais vous parler. Et c'est assez incongru chez moi, c'est une chanson.
Radio G, 101.5 FM.
Walking in the midnight sun.
Un album qui s'achève par la trilogie du film O Cangacero, qui est un western italien, mais qui se passe au Mexique, si je dis pas de conneries, ou en tout cas en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Je l'ai, mais je n'ai pas eu encore l'occasion de le voir. Et le morceau donc, de cet artiste, Nazaré Pereira, sur l'album Naturezza, s'appelle Amarellina, et ça parle du jeu de la marelle.
Et tu disais que c'était une trouvaille de vide-grenier,
ouais.
Qui avait des cœurs d'enfants, que tu n'étais pas forcément hyper fan, et que
ouais.
C'était un peu kitsch dans plein de morceaux. Je dis ça parce que je m'étais gouré de... Mea culpa, je m'étais gouré de boutons de,
ah oui,
de
personne
micro.
Personne m'entendait. J'étais censuré.
On t'entendait, mais très très loin en fait.
J'étais censuré. Alors donc, pour le dire vite fait, voilà,
Nazaré.
Ouais. Nazaré Pereira donc, est une artiste brésilienne, a sorti
ça, on l'a eu. Ça, on l'a eu.
En 1980
que le début,
l'album
hein.
Naturezza. Et donc, voilà, trouvaille de vide-grenier, morceau avec des cœurs d'enfants qui, d'habitude, voilà, c'est un peu compliqué quand même. Hein,
ouais, ça fait gnangnan un petit peu.
Ouais, voilà. Et ben,
ça fait musique pour enfants.
Oui. Ben, là, ouais. Vous ferez une idée. Moi, je trouve le morceau assez émouvant quand même. Je me livre un peu. J'ouvre ouais. mon petit cœur pour les auditeurs.
Ouais.
Et ça s'appelle Amarellina et c'est sur le jeu de la marelle.
Cette fois-ci, on a tout.
Jogo da amarelinha na linha, não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar.
Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le pli, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
Jogo da amarelinha e a vida quer durar, tem diamante no embigo, cuidado pode quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Teu choro é uma lagoa e ela que eu vou me banhar.
Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le pli, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde. Amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le pli, tu reviens et c'est fini.
Bah effectivement, il est tout mignon ce petit morceau là.
Ouais, j'ai trouvé ça tout mignon, assez. Ouais. Enfin, c'est toute une époque, je trouve un peu. Tu vois, c'est une espèce d'optimisme, un peu de un morceau. Donc l'album visiblement est de 1980. Je crois que ce serait difficile à enregistrer de nos jours. Enfin, je sais pas, il y a une espèce d'optimisme qui a pu. Enfin, j'en sais rien.
C'est ça, mais avec effectivement ce petit côté musique traditionnelle qui,
oui,
qui
ouais,
va
ouais,
bien.
Ouais. Effectivement, il y a tout un côté vraiment très brésilien dans les chansons. Et d'ailleurs, les paroles traduites en français sont pleines d'un petit lexique qui explique. Ça, c'est une île à l'embouchure de l'Amazone. Ça, c'est un état du Nord. Ça, c'est une danse typique, machin, etc.
Donc, c'est aussi un disque pédagogique.
Oui, voilà, exactement. Exactement. Bon. C'était chez Sésame. Alors, ça n'a rien à voir avec le centre de santé mentale Angevin.
Ah oui, non, oui, voilà. Non. Ça n'a pas été enregistré au Sésame.
Non, non, non.
Donc, c'est quoi? C'est un label, alors, que je que je connaissais pas.
C'est un label Sésame avec un Z. Hein.
D'accord.
Et voilà, c'est français.
Okay.
C'est français, monsieur, français.
Franco-brésilien, quoi, en l'occurrence.
Oui, voilà, exactement. Ouais. Eh bien, écoutez, je crois qu'il est temps de passer un dernier morceau. Hein,
bah
c'est
ouais,
ça, c'est ce que nous signale, nos techniciens nous signalent.
C'est ça, apparemment, voilà. on serait dans les temps là.
On serait dans les temps.
D'en parler un petit peu. Puis...
Et alors, je vais vous parler d'un album d'un groupe qui s'appelle Leslie's Motel. Alors, Leslie's Motel, c'est un groupe d'Américains qui ont enregistré un album en 1972, mais il n'est pas sorti à l'époque. Et il a fallu attendre des années, puisqu'il a fini par sortir là très récemment, masterisé en 2007 et sorti en 2009, si je ne dis pas de bêtises.
Donc, voilà, c'est longtemps après.
C'est dans les coffres. Hein,
J'espère qu'ils sont tous encore vivants.
Alors, je ne sais pas
pour en profiter.
Trop. C'est un groupe de Louisville dans le Kentucky. KC, c'est Kentucky.
KC, je pense, vraiment comme ça au hasard. Quoi.
Et avec comme batteur Roy Blumenfeld, qui a fait un peu parler de lui. C'est du hard rock un peu blues explosif, hein, ça fait penser aux Allman Brothers ou Ten Years Afters. Pour la petite histoire, Leslie's Motel, en fait, c'est un hôtel pouilleux de passes et de peuplé de trafiquants et de prostituées.
Qui existe vraiment.
Qui existait vraiment, okay. Et dont le groupe traînait dans le coin, en fait. Et ce qui est rigolo, c'est que leur premier album, unique, hein, s'appelle Dirty Sheets, les draps dégueulasses, quoi, de l'hôtel.
Ah oui, Sheets, dans
Sheets,
le sens.
Voilà, okay. Exactement. Dirty Sheets.
Ça aurait pu être autre chose.
Voilà, donc on va s'écouter le morceau qui s'appelle My Sweet Woman.
Ok, et puis donc on se dit au revoir, on se dit à bientôt.
Ouais,
on
exactement.
Se dit à dans 15 jours. On sera comment dans 15 jours?
Ah, bah non, pas dans 15 jours.
Pas dans 15 jours.
Ça, c'est en plein milieu des festivités.
Ah ouais, donc on fait notre petite
d'année.
Pause.
Je pense, on risque de faire une petite pause, c'est genre le 27 ou quelque chose comme ça, dans 15 jours, donc ça va être un peu
On se fait l'organisation de notre calendrier en direct là, en plein émission.
Voilà, exactement.
Donc non, pas dans 15 jours
non,
finalement.
On va vous souhaiter une bonne année, je pense.
Voilà, on va vous souhaiter une bonne année, de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis
plein de disques sous le sapin.
On va se retrouver, oui, mais toujours bien dit ça.
Ah bah oui.
Toujours
ouais.
Les disques sous le sapin. Et puis on se revoit donc en janvier prochain en 2022. Ciao.
Ciao.